Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il est suspecté d'avoir attendu ses compères au pied du Louvre au matin du 19 octobre. Le dernier membre présumé du commando du casse du Louvre interpellé hier matin, les bijoux, eux, restent introuvables. Quelques points de désaccord à régler. L'optimisme de Donald Trump ce matin en vue d'un accord de paix en Ukraine. Le président américain va envoyer un émissaire la semaine prochaine à Moscou. Et l'espoir qui renaît après la victoire de l'OM 2-1 hier soir en Ligue des Champions face à Newcastle.
L'enquête progresse un mois après le casse du Louvre.
Quatre personnes, je vous le disais, ont été interpellées hier matin. Quatre nouveaux suspects dans cette affaire placés en garde à vue. Deux femmes, deux hommes, parmi eux Julie Brault, le quatrième et dernier membre présumé du commando de cambrioleurs.
Oui, cet homme âgé de 39 ans a été interpellé à Laval, en Mayenne, déjà connu des services de police pour vol et recel. Il est suspecté d'être l'un des deux conducteurs qui ont attendu au pied du Louvre à scooter avant de prendre la fuite avec les bijoux dérobés. À ses côtés, un autre homme âgé d'une trentaine d'années et deux femmes de 31 et 40 ans sont également interrogées en garde à vue, tous originaires de la région parisienne. On ne sait pas encore ce qui leur est précisément reproché à ce stade, mais une chose est sûre, c'est un important travail d'enquête mené depuis plus d'un mois et qui a permis de remonter leurs traces, notamment l'analyse de la téléphonie ou encore des traces ADN retrouvées sur les lieux du cambriolage. Autant de données qui ont déjà mené à la mise en examen de quatre autres personnes dans cette affaire, dont trois membres présumés du commando de cambrioleurs.
Et toujours pas de traces en revanche des bijoux dérobés dans ce cas, au scénario déjà établi, presque anticipé. Résultat d'un audit publié en 2018 que s'est procuré le journal Le Monde, dans lequel la vulnérabilité du balcon utilisé par les cambrioleurs est pointée du doigt. Le document mentionne également le mode opératoire utilisé par les cambrioleurs, à savoir l'utilisation d'un monte-charge qui, je cite, faciliterait l'accès à ce balcon. Nouvelle attaque de drones cette nuit en Ukraine du côté de Zaporijjia, la Russie qui intensifie ses frappes alors qu'un accord de paix est sur la table. Au point d'être conclu, c'est toute la question. Un émissaire américain va se rendre à Moscou la semaine prochaine. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant RMC à Washington. Étape de plus dans un processus de paix, Antoine, engagé par les États-Unis optimistes ce matin.
Oui, Donald Trump donne un coup d'accélérateur diplomatique. Steve Witkoff, son homme de confiance, et son gendre Jared Kushner vont rencontrer Poutine à Moscou la semaine prochaine. En parallèle, un autre émissaire américain sera lui chargé des discussions avec Kiev. Trump, en tout cas, l'assure. Il ne reste que quelques points de divergence à régler. Une façon très optimiste de voir les choses. Les discussions, en fait, tournent autour de cette feuille de route présentée par les États-Unis la semaine dernière. Ce plan, au départ très favorable à la Russie, qui a finalement été réécrit par les Américains et les Ukrainiens. La nouvelle version doit être encore approuvée par le Kremlin et elle n'a pas tranché les questions les plus sensibles, les concessions territoriales, la taille de l'armée ukrainienne ou encore l'adhésion à l'OTAN. Il reste encore énormément de travail à accomplir. En attendant une éventuelle percée dans les négociations, Trump n'envisage pas de rencontrer Zelensky ou Poutine. Il explique qu'il le fera uniquement lorsque l'accord sera finalisé.
Et dans ce contexte, on a appris à la mise en examen de quatre personnes, dont trois écrouées à Paris, soupçonnées d'espionnage économique au profit de Moscou et d'ingérence après la découverte d'affiches collées sur l'Arc de Triomphe début septembre. Nouvelle séquence judiciaire pour Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation doit dire aujourd'hui si le droit a bien été respecté dans la condamnation en appel de l'ancien président à un an de prison, dont six mois avec sursis dans le cadre de l'affaire Big Malion. Pas de retour à la case prison. En revanche, pour l'ancien président, sa peine sera automatiquement aménagée. Députés et sénateurs vont se retrouver ce soir en commission mixte paritaire pour travailler sur le budget de la Sécu, revu et corrigé par les sénateurs qui ont retoqué hier soir la suspension de la réforme des retraites.
7h04 sur RMC, le Parlement prochainement appelé à se prononcer sur la baisse des prix de l'électricité.
C'est en tout cas la volonté de Sébastien Lecornu. Il a demandé à son ministre de l'économie de plancher sur différents scénarios. Plusieurs options sont sur la table. Une promesse qui s'inscrit, Hélène Terzan, dans un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie voulu par le Premier ministre.
Oui, c'est l'une des cinq priorités absolues sur lesquelles il veut que les parlementaires se positionnent. Pour faire baisser la facture d'électricité des ménages et des entreprises, l'entourage du Premier ministre fait savoir que plusieurs options sont sur la table pour être présentées au Parlement. Il est même question d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie. Hier, à l'Assemblée, le ministre de l'économie, Roland Lescure, évoquait déjà la piste de la taxation de l'électricité.
Il faut que la fiscalité soit en phase avec nos objectifs de transition
écologique. Le débat sur les assises, il doit avoir lieu, et notamment, évidemment, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances.
Car aujourd'hui, la taxation de l'électricité est plus élevée que celle sur le gaz importé. Des décisions seront prises d'ici Noël, poursuit le ministre. Mais déjà, le monsieur énergie du RN, Jean-Philippe Tanguy, dénonce une énième déclaration totalement vide pour gagner du temps. Son parti plaide surtout pour une baisse du coût de production français de l'électricité.
Et vous, est-ce que vous estimez qu'on paye l'électricité trop cher en France? Vous êtes particulier, vous êtes artisan, vous êtes commerçant. Combien est-ce que vous payez votre électricité? Appelez-nous au 3216 pour en témoigner. Et puis ne manquez pas, juste après le journal de Thibault, l'expert en énergie, Nicolas Goldberg, qui nous dira si vraiment ça va baisser et comment.
Il est 7h05, vous écoutez RMC. L'inquiétude ce matin des salariés d'Auchan en difficulté. Le distributeur nordiste affiche sa volonté de passer ses 294 supermarchés en franchise sous la bannière du groupement des mousquetaires Intermarché et Netto. Si le projet prévu pour 2026 doit encore être soumis à l'autorisation des autorités de la concurrence, les syndicats redoutent le pire. Un an lougarnier après l'annonce d'un plan social et la suppression déjà de 2400 postes.
L'annonce a provoqué un choc chez les salariés, selon René Carrette. Il est délégué syndical central CFDT chez Auchan.
C'est hyper violent à apprendre que 11 000 salariés vont quitter l'enseigne Auchan pour un peu un avenir, on va dire, incertain. C'est dur à entendre.
Alors les employés vont rester des salariés d'Auchan. Le groupe reste aussi propriétaire du fonds de commerce. Mais les employés vont désormais travailler pour les enseignes Intermarché et Netto. Contacté par RMC, le groupe Auchan nous assure qu'aucun emploi n'est menacé. Difficile à croire pour les syndicats.
En général, quand vous avez comme ça une reprise en franchise, dans les 6 mois qui suivent, vous avez une baisse de la masse salariale obligatoirement.
Surtout, les salariés pourraient perdre leurs avantages.
Des jours de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté, on a des plans d'épargne entreprise, tout ça, demain, ils le perdront. Chaque supermarché va devoir négocier avec son directeur. Ça correspond en moyenne, par salarié, environ 2500 euros de pertes par an.
Il espère des engagements de la part du groupe concernant les emplois et leurs acquis sociaux.
Une victoire qui fait du bien, beaucoup de bien, celle de l'OM hier soir en Ligue des Champions 2-1 face à Newcastle, deuxième succès de la saison dans la compétition pour les Marseillais, renversant mené dès les premières minutes de jeu. Et l'artisan de cette victoire, Clément Brossard, c'est le vétéran Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé hier soir au Vélodrome.
Remplacé à 5 minutes de la fin, l'attaquant marseillais a bien mérité son ovation. Il a été hier soir le héros des supporters.
Oba nous a tout le temps fait rêver, il nous fera tout le temps rêver. Ah, Aubameyang, il fait plaisir.
Franchement, s'il continue comme ça en Ligue des Champions, c'est carré.
Merci, Pierre-Emerick Aubameyang.
Plusieurs occasions manquées en première période, mais un doublé au retour des vestiaires en 5 minutes. Et voilà l'OM devant, le défenseur Benjamin Pavard est séduit.
Il n'y a rien à prouver, hein, à personne. Hein. Sa carrière, elle parle pour lui. C'est un grand buteur, c'est aussi une super personne. Et il mérite parce que c'est un bosseur au quotidien. Je suis très content pour lui.
Un 19e puis 20e but en Ligue des Champions, l'attaquant de 36 ans s'offre une seconde jeunesse, selon Timothy Weah.
Un joueur qui a 19 ans quand il joue, c'est quelqu'un qui a pas d'ego et qui travaille pour l'équipe. Donc il mérite tout ce qu'il arrive aujourd'hui et je suis très fier de lui aussi.
Il faudra pourtant s'en passer à partir du 21 décembre, car le buteur marseillais partira au Maroc jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon.
L'OM 19e au classement avant les matchs de ce soir. PSG Tottenham, rendez-vous sur RMC 21h, 18h45 avant ça. Monaco se déplace sur la pelouse des Chypriotes de Paphos.
C'était le journal de Thibaut Texer.